Il est 7h.
Ici, tous les professionnels de santé ont accepté de laisser une partie de leur rémunération pour alimenter cette caisse.
De la débrouille et de la solidarité au centre de vaccination de Nancy, où les soignants proposent à des étudiants précaires un travail pour la journée. 7 religieux catholiques kidnappés hier en Haïti, parmi eux 2 Français, enlèvement vraisemblablement crapuleux. Dans ce journal aussi, le procès de la BAC Nord de Marseille, 18 policiers poursuivis pour des vols sur des dealers des cités. Et puis c'est une pollution invisible et pourtant au long cours, ces containers tombés au fond des océans, l'Organisation Maritime Internationale va s'en saisir dans les prochaines semaines. Juste après ce journal, l'éclairage Géco, Nicolas Barré, suivi du regard international de Vincent Hervouet.
Donald Trump, Tony Truant, il traite un des chefs républicains de fils de pute, il veut se venger, il va les ruiner.
L'édito sport de Virginie Fulpin.
C'est affreux quand il n'y a pas de public, c'est ridicule de reporter Roland Garros d'une semaine. Si les joueurs de tennis arrêtaient de se regarder le nombril, ça nous ferait des vacances.
Et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire avant 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On l'a donc appris cette nuit, l'enlèvement de 7 religieux catholiques hier près de Port-au-Prince en Haïti. Parmi eux, Lénaïque Monnier, une religieuse et un prêtre français.
Oui, comme les 5 autres, ils faisaient partie d'un groupe se rendant à l'installation d'un nouveau curé pas très loin de la capitale. Les ravisseurs demandent 1 million de dollars de rançon, motif crapuleux donc apparemment, car les enlèvements contre rançon sont de plus en plus fréquents. Depuis 2 ans, il ne se passe pas un jour sans pleurs et grincements de dents. C'est d'ailleurs ému la conférence haïtienne des religieux qui a exprimé à la fois sa tristesse et sa colère.
Est-ce que la police a une idée de l'identité des ravisseurs ?
Alors à cette heure, elle soupçonne un gang armé qui se fait appeler les 400 Mawozo, installé depuis peu dans le quartier où s'est déroulé le rapt. Les bandes sont de plus en plus nombreuses, elles agissent toujours de la même manière. Séquestration et demande de rançon, vol, pillage sur toute la population. Elles bravent l'autorité de l'État depuis des mois, à tel point que depuis début mars, Haïti vit et pour un mois sous état d'urgence.
Précision signée Lénaïque Monnier. Des soirées clandestines et des gardes à vue ce week-end. L'organisateur présumé d'une fête qui a rassemblé 70 personnes dans les bois en Côte d'Or a été arrêté.
2 interpellations aussi près de Toulouse après une soirée dansante dans un gîte. Une centaine de personnes y ont participé, moyennant 30 euros l'entrée.
Pour eux, l'heure n'est pas à la fête, mais voici une nouvelle initiative à destination des étudiants parmi les plus touchés par la crise.
L'épidémie les a privés ces derniers mois de petits boulots pour financer leur quotidien. D'où cette idée qu'ont eu les soignants du centre de vaccination de Jarville-la-Malgrange, c'est près de Nancy. Offrir une journée de travail et une rémunération à des étudiants précaires. Reportage d'Arthur Mbaché pour Europe 1.
Allô, oui.
Oui, bonjour Monsieur Girard. C'est le centre de vaccination.
Sa mission du moment, faire le tri dans la liste d'attente du centre de vaccination. Jean-Baptiste, 24 ans, école d'ingénieur, étudiant, sans job étudiant à cause de la crise.
Donc du coup, ça c'est une des missions. Je donne un coup de main, par exemple, au docteur aussi qui a besoin de coup de main. En fait, je suis vraiment polyvalent, quoi. Je fais un peu tout.
Vous vaccinez pas les gens, quand même?
Ah non, ça, je sais pas y faire, en tout cas. Non, ça peut m'entendre, ça.
Dans une situation normale, vous auriez un job étudiant, c'est ça?
Un McDo, mais bon, comme tout est fermé en ce moment, il n'y a pas de boulot. J'ai quand même besoin d'argent, quoi, en ce moment. Parce qu'il faut que je paye mon loyer, il faut que je me déplace, il faut que je paye aussi un peu à manger.
Deuxième dose pour monsieur.
L'infirmier Olivier Babel dirige le centre de vaccination de Jarville.
On s'est dit, voilà, comment on peut faire? On a appelé le CROUS, et par l'intermédiaire des œuvres sociales du CROUS, on leur a expliqué notre projet, à savoir trouver des étudiants désireux de servir la cause, et puis qui auraient le plus besoin d'un petit coup de main financier. Mmh. Ici, tous les professionnels de santé ont accepté de laisser une partie de leur rémunération pour alimenter cette caisse. C'est de la débrouille.
En échange d'une journée, ici, les étudiants touchent 80 euros en chèque service pour des dépenses ciblées, loyer, transport, vêtements, alimentation. Nancy, Arthur Mbaché, Europe.
Deux nouveautés aujourd'hui dans la lutte contre le Covid-19, l'ouverture de la vaccination aux plus de 55 ans avec l'AstraZeneca et bientôt le Johnson & Johnson. Les autotests arrivent par ailleurs aujourd'hui dans un quart des pharmacies.
Ils arrivent même dans ce studio, on va les tester, je vous le disais, dans une vingtaine de minutes.
Ils ont encore quelques heures pour donner leur avis, maintien ou non des élections régionales en juin prochain. Les maires de France ont été sollicités vendredi par l'exécutif, une consultation de dernière minute qui illustre, Louis Dragnel, la difficulté du chef de l'État à trancher dans ce dossier.
Oui, le président a changé plusieurs fois de position sur le sujet. Dans un premier temps, il était favorable à un report en octobre pour des raisons sanitaires, mais aussi avec une arrière-pensée politique, convaincu que les 3 présidents de région, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez, s'affronteraient très vite, juste après les régionales, en vue de la présidentielle, ce qui aurait pu lui être profitable. Mais à Matignon, Jean Castex, attaché au respect du calendrier électoral, plaide pour le maintien, comme l'ensemble des partis politiques d'ailleurs. Emmanuel Macron se rallie alors à cette position. position en fin de semaine dernière. Ensuite, pour être sûr de son choix, le président demande à plusieurs ministres et cadres de la majorité de sonder des maires La République En Marche. Surprise, près de 80% d'entre eux plaide pour un report du scrutin, ce qui amène le président à lancer dans la précipitation une grande consultation des maires par mail via les préfets pendant le week-end avec une demande de retour avant ce soir. Rien ne dit pour l'instant qu'Emmanuel Macron suivra leur avis, mais il serait politiquement très compliqué de ne pas le faire dans un contexte de crise sanitaire où les élus locaux sont très remontés contre l'exécutif.
Et dès hier, le président du Sénat, Gérard Larcher, a prévenu il saisira le Conseil constitutionnel si le gouvernement décidait de reporter les élections.
Ce sont des offres qui ont fleuri à la faveur du troisième confinement, des réservations de longue durée, en gîte ou en camping, pour permettre à des citadins de télétravailler au grand air. Illustration avec cette famille qui a loué pour tout le mois d'avril un mobil-home sur l'île de Ré. Télétravail pour les parents, vacances pour les enfants, les pieds dans l'eau. Un reportage de Marion Gauthier.
Profiter du silence, descendre les allées désertes du camping jusqu'au marais salant.
Moi, tous les matins, je bois mon café sur la terrasse, qu'il fasse froid ou qu'il pleuve. Fabuleux.
Une petite maison de bois remplace celle du Tarn. Certains sauvent les vacances. Les voisins apaisent le télétravail en famille.
Je m'assois ici, ma femme s'assoit juste en face. Les enfants s'amusent ensemble, des fois ça nous laisse un peu tranquille.
On va aller au phare de la baleine cet après-midi.
Chez nous, on reste à rien faire, quoi. À part aller les devoirs et c'est tout.
La restriction de 10 km, facile à respecter. Ici, la plage est à 100 mètres. Les promeneurs sont rares. Presque toute l'île comme aire de jeu, rendue accessible pour 900 € au lieu de 2500.
Si ça reste abordable pour l'île de Ré, pour un mois en tout cas, on ne retrouvera pas ça un autre moment.
Pas sûr, le camping ne compense pas ses pertes en ouvrant, mais il fait un test.
Pourquoi pas dans l'avenir proposer des offres télétravail, notamment sur le hors-saison, puisque le télétravail va être amené à se généraliser, ça ouvre des perspectives sur l'avenir.
Si la réouverture est encore repoussée, le directeur n'exclut pas de prolonger l'offre télétravail et la parenthèse venteuse de ces 7 familles. Sur l'île de Ré, Marion Gauthier, Europe 1.
Et voilà, si vous êtes ailleurs que sur l'île de Ré, on vous a offert ces quelques secondes de mouette ce matin sur Europe 1, 7h07. Flic ou ripou ? Cette question ce matin à la une de la Provence, alors que s'ouvre aujourd'hui le procès de l'ancienne BAC Nord de Marseille.
18 policiers ou anciens policiers poursuivis pour des vols de drogue et d'argent sur des dealers ou des revendeurs. Un service gangréné, avait dit le procureur au moment où les faits étaient révélés en 2012. Simple arrangement avec la procédure pour la défense et des méthodes policières au cœur de ce procès. À Marseille, pour Europe 1, Stéphane Frangy.
Du haschich saisi puis redistribué à des informateurs, une pratique hors cadre mais courante à l'époque, plaide Alain Lotte, l'avocat d'un des prévenus.
L'indique, c'est aussi vieux que Vidocq hein, dans la police. Il faut pas pousser des cris d'orfraie, de pas vouloir regarder les choses, d'être des tartuffes. Non, on le savait, c'était toléré. La seule règle à l'époque de la BAC Nord, c'est la politique du chiffre. Il faut faire des affaires et tous les mois.
Son client a fait de la détention provisoire avant d'être révoqué de la police. Il finira par retrouver un emploi à la vidéosurveillance de la ville d'Aubagne. 9 ans après les faits, certaines accusations comme le motif de bande organisée ont été abandonnées et la défense souhaite aujourd'hui contre-attaquer face à un dossier qu'elle juge fragile.
On a le sentiment, si vous voulez, que c'est un dossier essentiellement politique, une guerre des chefs, et que ce sont des hommes de terrain qu'à l'on présente l'addition. Et ça ne me paraît pas justifié.
Les 18 prévenus ont déjà fait l'objet de mesures disciplinaires en interne de la police nationale. 3 ont été révoqués, 1 rétrogradé. D'autres ont fait l'objet plus simplement de mesures de suspension ou de blâme. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
La cybercriminalité est plus inquiétante qu'une crise financière mondiale. C'est ce que dit le président de la Banque Centrale Américaine qui redoute les conséquences possibles d'une cyberattaque de grande ampleur et qui souligne la nécessité d'investir pour se prémunir contre ce risque.
C'est une image qui a fait la une il y a peu, celle de ce navire bloqué en plein milieu du canal de Suez avec à son bord une montagne de containers. Des navires comme celui-là, il faut en imaginer des centaines chaque jour sur l'océan. Un trafic commercial avec son lot de dégâts collatéraux, ces conteneurs dont certains finissent leur course au fond de la mer, une pollution à laquelle on va s'intéresser avec vous, Zoé Pallier, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on a une idée d'abord de l'ampleur de cette pollution ?
Oui, il y en a des dizaines de milliers au fond des océans, des conteneurs tombés à l'eau devenus des épaves qui mettront des siècles à se désagréger. Idem pour certaines marchandises. Exemple, au large de l'île néerlandaise de Terschelling, en 2019, un cargo y perd 342 conteneurs. Le littoral est recouvert de marchandises. L'ancien maire, Bert Fassing, est toujours traumatisé.
C'était affreux, 8 km de plage souillée, avec des matelas, des frigos, des jouets. Certains conteneurs de ce cargo réapparaissent encore de temps en temps sur la plage. On a juste à se pencher pour ramasser les détritus. Les gens sont en colère et se sentent impuissants, car ça se répète. Rien que la semaine dernière, 5 nouveaux conteneurs sont tombés à l'eau.
Des conséquences donc au long cours et un phénomène lié, semble-t-il, à des comportements désinvoltes.
Oui, c'est en tout cas ce que dénoncent les associations. L'attitude de certains commandants qui, pour aller plus vite, attachent mal les conteneurs au moment du départ, surchargent les cargos, ne déclarent pas les chutes. Des mauvaises pratiques banalisées que regrette Jean-Marc Lacave. Il est délégué général des armateurs de France.
Il y a des chargeurs qui peuvent ne pas déclarer la réalité précise de ce qu'ils chargent pour payer une assurance moindre. C'est des comportements tout à fait inacceptables. C'est contraire complètement aux valeurs de la marine marchande.
Alors, contraire aux valeurs de la marine marchande, mais est-ce qu'il y a des solutions, justement, Zoé?
Il y en a une, en tout cas, sur laquelle travaille l'Organisation Maritime Internationale et qui fera l'objet de négociations qui s'ouvrent dans 3 semaines. Il s'agit de tracer les marchandises à l'aide d'un boîtier fixé sur chacun des 220 millions de conteneurs qui transitent chaque année sur les eaux.
220 millions de conteneurs chaque année sur les océans, dossier signé Zoé Palier pour Europe 1. Merci. Avant les Oscars, dans 2 semaines, déjà 2 récompenses au Royaume-Uni pour The Father, adaptation de la pièce de Florian Zeller, passé à la réalisation. Son film a obtenu hier soir, lors de la cérémonie des BAFTA britanniques, le prix du meilleur acteur pour Anthony Hopkins et du meilleur scénario adapté pour Florian Zeller.
Merci. Merci infiniment pour ce magnifique prix. Ça a été vraiment un honneur de travailler dans votre pays, qui est vraiment la patrie du théâtre. Quand on a décidé de faire ce film, il était clair que ce devait être un film britannique. Je suis français, comme vous pouvez l'entendre, mais dans mon cœur, je suis anglais et je le sens encore plus aujourd'hui grâce à vous.
Florian Zeller en anglais hier lors de la cérémonie des BAFTA britanniques, cérémonie marquée par les 4 prix également pour le film Nomadland avec meilleur réalisateur pour Chloé Zhao et meilleure actrice pour Frances McDormand.
Merci beaucoup Marion Calais. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Il est 7h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.
La revanche des frontières à 7h40. Réflexion ce matin avec le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, Bruno Tertrais. Terrorisme, crise migratoire, pandémie aujourd'hui, les frontières sont résilientes, dit-il. Reviennent en grâce, pas que dans la voie des populistes, mais ces tracés physiques, comme les notions de protectionnisme économique aussi. On va en parler, les frontières sont-elles pour autant une solution? Bruno Tertrais dans le tête-à-tête Europe Matin. C'est à 7h40, tout à l'heure. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et je vous parle de la reprise, elle est là, en particulier dans l'industrie, avec quelques gros soucis quand même.
Et ce sera juste avant le regard international de Vincent Hervouet. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, il est 7h15, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Et encore de l'optimisme de Nicolas, c'est une bonne nouvelle, la reprise est là dans l'industrie, dites-vous. Elle serait même presque trop forte.
Oui, vous avez bien entendu. Alors, dans de très nombreux secteurs, on constate des pénuries, c'est ça le problème. On a beaucoup parlé ces derniers temps des pénuries de semi-conducteurs qui obligeaient des usines automobiles à stopper la production. Mais en fait, ça va bien au-delà. Quand on fait le tour des entreprises, eh bien, on s'aperçoit qu'en ce moment, pas un secteur n'est épargné. On manque de tout. Ça peut être des emballages, du bois, des mousses pour le bâtiment, certains plastiques et même des vis, des vernis, de la peinture, enfin, beaucoup de choses.
Et comment ça s'explique?
Si on refait le film, quand le virus a frappé il y a un an, les entreprises n'avaient évidemment aucune visibilité, c'était une crise complètement inédite. Et elles ont d'abord cherché à préserver leur cash pour survivre. Elles ont donc coupé dans toutes leurs commandes de pièces détachées, de matières premières, etc. Puis quand la reprise a commencé à se dessiner vers l'automne, elles ont puisé dans ce qui leur restait de stock, faute de savoir si la reprise serait solide ou non. Mais maintenant que les affaires reprennent vraiment, eh bien, elles se trouvent souvent à court de composants tout bêtes. Alors, ce qu'on appelle le lean management, c'est-à-dire la gestion serrée des stocks, c'est très bien, ça marche tant qu'il n'y a pas de problème dans les flux de marchandises d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre, tant que les fournisseurs sont en rendez-vous, mais sinon, eh bien la mécanique s'enraye et c'est ce qui se passe en ce moment.
Alors on imagine que les choses vont finir par revenir à la normale.
Bah oui, mais pas tout de suite, c'est bien le problème. Et en attendant, certains prix flambent, les sous-traitants en profitent, c'est normal, pour augmenter leurs tarifs. Les prix de certains plastiques, par exemple, ont doublé en 6 mois. Et puis il y a des tensions jusque dans l'acier, dans le polypropylène, qui est une résine indispensable, entre autres, pour l'industrie automobile. Ça pose une question plus fondamentale. Notre tissu industriel a vieilli, il y a des trous. Pour beaucoup d'entreprises, eh bien, elles dépendent d'une poignée de fournisseurs situés au bout du monde, faute d'alternatives sur notre continent. Et au fond, la grande leçon de cette crise, c'est qu'elle appelle une réindustrialisation de l'Europe, et pas seulement dans les industries de santé.
Merci Nicolas Barré. Alors positif, mais toujours prudent, attentif, on va dire. Merci Nicolas Barré, c'était l'éclairage éco. 7h17 sur Europe 1, le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Donald Trump ne tweet plus, mais il parle toujours aussi cru. Et c'est le Parti Républicain qui en a fait les frais.
Oui, alors elles sont pas aussi réjouissantes que les vacheries de Clémenceau ou Churchill, mais les insultes de Donald Trump sont plus efficaces, elles sont claironnées, elles ont fait sa célébrité. Plusieurs éditeurs ont publié ses jurons. Le New York Times a repris tous ses tweets injurieux quand il a été chassé du réseau social. Trump n'en a pas honte, au contraire, cette parole désinhibée prouve qu'il reste un outsider. C'est le côté rugueux qu'aime une partie de ses électeurs, et c'est comme ça qu'il les venge et de l'establishment et du politiquement correct.
Samedi soir, à une réunion de donateurs, il a insulté Mitch McConnell, un républicain, le chef de la minorité au Sénat.
Il l'a traité de fils de pute stupide. Il le connaît bien puisqu'il a discuté pendant 4 ans avec lui, et puis il avait pris sa femme comme secrétaire d'État au transport. En février, il avait déjà décrit le sénateur du Kentucky comme un politicien renfrogné, maussade, avec lequel le Parti républicain jouait perdant. La vie au soleil de Floride n'a pas dissipé sa colère. S'il déteste le couple McConnell, c'est parce que ces deux-là l'ont trahi. Il a entériné la victoire de Joe Biden et elle a démissionné après l'invasion du Capitole. Dans la galerie des présidents, Donald Trump est le champion de l'insulte et celui qui n'a pas déclenché de guerre. Ça ne veut pas dire qu'il aboie et qu'il ne morde pas.
Il veut se venger ?
Ben, il veut les virer, en commençant par les ruiner. Depuis sa défaite, il a amassé un trésor de guerre. Son groupe de soutien officiel, Save America, appelle les donateurs à cesser de financer ceux qui ne sont républicains que de nom. Il a aussi interdit aux comités qui font des levées de fonds pour le parti d'utiliser son image. Pourquoi ? Bien parce qu'il finance des candidats qui ont voté son impeachment. En 2022, Donald Trump va peser tout son poids sur les élections de mid-term. D'ici l'été, il aura son propre réseau social. 80% des électeurs républicains le soutiennent. Sur son site provisoire, il se vante de détrôner les dynasties et de vaincre l'establishment. Avec les McConnell, il a bien choisi son exemple. Mais comme il dit, le meilleur est à venir.
Vincent Hervouet, le regard international. Merci Vincent, il est 7h19 sur Europe 1. Dans quelques toutes petites secondes, l'édito sport de Virginie Fulpin, juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Quand on fait une sélection drastique dans n'importe quel domaine, d'ailleurs, on dit que c'est trier sur le volet. Mais d'où vient cette expression ? Je vous le dis dans un instant.
A tout de suite sur Europe 1, il est 7h20.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h22 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le tournoi de tennis de Monte-Carlo a lieu cette semaine. C'est le vrai début de la saison sur terre battue. Une saison marquée par le report de Roland-Garros d'une semaine. Et de nombreux joueurs et joueuses n'ont pas apprécié cette décision. Et ils le font savoir. Pour vous, il faudrait surtout qu'ils arrêtent de se regarder le nombril.
Mais ils font peut-être un concours. Et là-dessus, Benoît Paire est au-dessus du lot.
Franchement, vraiment rien à cirer. Franchement, ce match, arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu. Donc, ça m'apporte plus rien, le tennis, quand on voit les conditions, les trucs. Enfin, se retrouver ici, c'est d'une tristesse absolue, alors que d'habitude, c'est le meilleur tournoi du monde. Donc, franchement, gagner ou perdre dans des conditions pareilles, franchement, je m'en fous et je vais rentrer chez moi.
Aye.
Voilà, après sa défaite hier à Monte-Carlo. Oui, exactement. Ben moi aussi, je vais le dire franchement, l'image du cimetière alors qu'on approche les 100 000 morts de la Covid en France, on pouvait éviter que l'absence de public pèse sur le moral des joueurs, tout le monde comprend. Mais là, tout est bon pour tout de suite partir dans des diatribes auto-centrées, comme le report de Roland-Garros d'une semaine. Alizé Cornet parle de décision égoïste en traitant la ministre des Sports de calamité. Et Daniil Medvedev, oui exactement, Daniil Medvedev lui ironise sur ce virus qui ne va pas disparaître en 7 jours. Prenez une tisane, réfléchissez 2 secondes. Déjà, Roxana Maracine et Anou n'est pour rien dans ce report, c'est la Fédération Française de Tennis qui gère. Quant à Daniil Medvedev, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir perdu 4 fois au premier tour de Roland-Garros en 4 participations qu'il rend chafouin, mais personne n'a dit que la crise sanitaire serait derrière nous le 30 mai. Les organisateurs ne sont pas idiots. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de vous rebeller contre chaque décision. Vous pouvez aussi dire « je ne sais pas », ça n'est pas infamant.
Alors je ne sais pas si c'est ce qui le rend chafouin, ça vous rend taquine, cela dit Virginie Fulpa. Alors c'est vrai que le report du tournoi d'une semaine pose des problèmes de calendrier.
Oui, ça raccourcit la saison sur air. 15 jours seulement entre Roland-Garros et Wimbledon, c'est difficile à gérer. Les joueurs qui iront loin à Paris auront une préparation minimale pour Londres, c'est vrai. Déjà, Daniil Medvedev semble plutôt à l'abri de ce genre de désagrément. Et puis au-delà de cette blague de mauvais goût, cessez de vous regarder le nombril. Vous n'êtes pas tout seul à avoir un calendrier perturbé. Ça fait un an que le monde entier s'adapte, tant bien que mal, ouvrez les yeux. Alors que la Fédération française de tennis veuille gagner une semaine pour se donner une petite chance d'avoir un peu de public dans les tribunes, excusez-nous, mais c'est important aussi. Ça ne garantit rien, mais on peut au moins essayer. Je pense que Benoît Paire ne devrait pas dire le contraire. Si on peut tenter de retrouver un peu de vie le 30 mai, c'est tout sauf ridicule et égoïste, en tout cas beaucoup moins que ces prises de position permanentes.
Merci beaucoup Virginie Fulpin, l'édito sport, c'est tous les matins et c'est sur Europe 1 à 7h20. À présent, 7h24, je me tourne vers Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. J'imagine que le matin, lorsque vous arrivez à la rédaction d'Europe 1, il est très tôt, vous découvrez toutes les informations tombées pendant la nuit, vous dites deux choses. Déjà, vous vous dites va falloir que je les ramasse et ensuite vous les trier sur le volet. Trier sur le volet, une expression qu'on utilise, mais d'où ça vient?
Ah, trier sur le volet, c'est donc mettre en place une sélection, choisir avec soin, c'est vrai, hein, pour les infos qu'on distille le matin. La question qu'on se pose, cela dit, c'est d'où vient ce volet?
En tout cas, ça, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec le volet de votre fenêtre. Au Moyen-Âge, quand on parlait de volet ou même de voilet avec un T, on évoquait un petit voile, un tissu extrêmement fin et léger. D'ailleurs, on disait qu'avec un peu de vent, il pouvait voleter et cette étoffe servait donc de tamis. Au XVe siècle, le volet n'est plus un tissu, mais une assiette de bois, qui a exactement la même utilisation, mais plutôt pour les fèves et les pois. En 1532, Rabelais a le génie, dans son Pantagruel, de transposer l'expression des pois chiches aux personnes. Il parle d'élus, choisis et triés comme beaux pois sur le volet. Aujourd'hui, en Angleterre, on dit « to separate the wheat from the chaff », séparer les grains de la paille. En Espagne, « separar el grano de la paella », c'est pareil, sauf que là, c'est le grain de la paille et non les grains de la paille.
Soyons précis.
Au Brésil, on préfère l'expression « escolier a dedo », comprenez « trier au doigt ». Alors qu'en Roumanie, on dit « trier d'après le sourcil ». Avant d'arriver à ce micro, je cherchais encore une explication à cette métaphore, mais je n'ai pas trouvé, mais je ne désespère pas.
Ah si, en étant pointilleux, délicat, comme ça, le sourcil, pour en attraper un seul, il ne faut pas se rater.
Non, quand j'imagine... on les épile,
C'est
ce que je me dis, c'est vrai que le matin, on passe ces infos au tamis, comme le poids.
C'est pas un volet, c'est un voile à l'origine.
Trier voilà. Comme beau poids sur le volet, c'est joliment dit. On vous retrouve à 16h tout à l'heure, Stéphane Bern, pour Historiquement Vôtre.
Absolument, avec Mathieu Noël, on réunit l'astronome Guillaume Le Gentil, et qui n'est jamais allé au bout de son but, le génie Honoré de Balzac et Pierre Richard. Leur point commun, comme son nom l'indique, on réunit des Pierre Richard de l'histoire, c'est de sacrés poissards, allez voir.
Et un épisode d'Historiquement Vôtre vous suffit pour les poissards
non,
de l'histoire?
Non, on a dû les trier sur le volet.
N'est-ce pas Stéphane Bern, 16h-18h, c'est Historiquement Vôtre. Merci Stéphane, avec Mathieu Noël tout à l'heure, bien sûr. Il est 7h27 et c'est Laurent Cabrol qui nous rejoint, c'est l'heure de la météo.
Oui. Si vous ouvrez vos volets ce matin, vous allez crier sur le volet parce que le froid va rentrer immédiatement. Vous avez en ce moment des températures de moins 5 à plus 2 degrés, moins 5 à Charleville, plus 2 à Bordeaux, 1 à Paris, moins 1 à Caen, moins 2 à Reims, moins 3 à Nevers. Bref, des températures froides, des gelées bien entendu, mais ces gelées sont quand même un petit peu moins importantes que la semaine dernière. Ce sera la dominante de cette semaine, des gelées pratiquement tous les jours, mais avec une intensité un petit peu moins. Vous allez me dire, la nature a déjà pas mal souffert et ça va continuer, certainement. Donc voilà pour cette mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que toujours en ouvrant vos volets, vous verrez quand même que le ciel est souvent dégagé sur de nombreuses régions, sur la Bretagne, les Poitou-Charentes, le Limousin, le Berry, la Bourgogne, l'Alsace, la Franche-Comté. Un temps relativement sec dans toutes ces contrées. En Méditerranée, attention au vent. Mistral et Tramontane, 90 à 100 km/h. Bonsoir. Dans le sud-ouest et l'Auvergne, comme sur les Cévennes, prévoyez une amélioration au fil des heures. Et puis si vous habitez le territoire de Belfort, la région de Strasbourg, si vous habitez le Nord, la Picardie, la Lorraine, la région parisienne, le temps sera très nuageux, avec quelques averses. Sur Paris, je pense que les averses arriveront après le goûter. Hein, vers, bon, enfin bref, vous voyez, quand vous goûtez. Juste après, les averses peuvent arriver sur Paris. Les températures maximales, entre 8 et 15 degrés. 8 à Épinal, vous voyez que ça monte bien par rapport à ce matin. 9 à Nancy, 10 à Besançon, 12 à Lyon, Paris et Chirol dans l'Isère. 13 à Rennes, 14 à Toulouse, 15 à Nice et Marseille et 17 à Montpellier.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. C'était la météo complète. 7h28.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, presque 7h30, un nouveau journal.
Des tests rapides, plus pratiques et moins douloureux que les PCR. À partir d'aujourd'hui, les autotests Covid arrivent en pharmacie. Comment ça marche? Quelle est leur utilité? On fait un mode d'emploi dans ce journal. Nous serons à Londres aussi, où les Britanniques sont impatients de retrouver leur pub adoré. Ils rouvrent aujourd'hui. Dans ce journal, le mea culpa du chef cuisinier Christophe Leroy, mis en cause pour des dîners clandestins. Et puis, il y a 60 ans, jour pour jour, Yuri Gagarin effectuait un vol dans l'espace pour la toute première fois. Aujourd'hui encore, il reste une référence pour tous les cosmonautes.
Juste après ce journal, La Touche Âme, le retour de Bertrand Chameroy. Le tête-à-tête Europe Matin avec Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui publie une réédition de son Atlas des Frontières, réflexion sur la notion de frontière, justement. L'édito politique, c'est Nicolas Bétou.
Je vais vous parler du mystère de la gauche en France. Elle sait qu'elle doit s'unir pour gagner en 2022, mais elle fait tout pour ne pas y parvenir.
Et puis Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1. Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté à 8h15. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un nouvel outil de dépistage du Covid débarque dans les pharmacies à partir d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous autotester sans vous enfoncer un écouvillon tout au fond du nez.
Bonjour Victor Delangle.
Bonjour Mathieu.
Spécialiste santé de la rédaction, mais aussi notre cobaye ce matin finalement. Cet autotest, vous l'avez expérimenté juste avant de rentrer dans ce studio.
Oui, ça chatouille un petit peu, mais c'est beaucoup moins douloureux, je confirme, que les tests PCR classiques.
Et alors comment ça marche ces autotests? C'est facile à utiliser?
Oui, c'est facile à utiliser. En fait, ce sont des tests nasaux avec la même technique que les tests antigéniques classiques. Dans la boîte de l'autotest vendu en pharmacie, vous trouverez donc un écouvillon. Vous savez, ce sont ces longs cotons-tiges fins. Il faut simplement l'enfoncer à 3 cm dans les narines. Je vais vous montrer, et Mathieu, pendant 15 secondes, vous allez frotter l'écouvillon contre les parois des narines. Il faut ensuite placer l'écouvillon dans un petit tube en plastique qui contient un réactif. Et c'est cette solution que vous verserez enfin sur la plaquette du test. Et 10 à 15 minutes plus tard, le résultat tombe. Une barre, vous êtes négatif. Deux barres, vous êtes positif.
Interrogation surprise, donnez-moi ça. On va essayer ça. J'ai enlevé mon masque exceptionnellement dans le studio. Alors déjà, le grand mensonge de l'ouverture facile. Vous pouvez m'aider,
Victor Delangle? Je vais vous aider.
Ça, c'était pas prévu, j'arrive pas à ouvrir.
Je vais vous aider. Ce qui est important à savoir quand même pour ces tests antigéniques, ces autotests, c'est qu'ils sont fiables à 70-80%. Et donc, vous pouvez commencer tout de suite à vous isoler impérativement. Et le résultat, il faudra ensuite faire un test PCR classique en laboratoire. Si vous êtes positif, ça c'est très important et c'est à retenir.
Alors, 15 secondes, vous avez dit?
15 secondes.
4 à 5 centimètres. Pas trop loin, c'est
pas
ça?
Pas trop loin, exactement. Vous frottez comme ça un petit peu.
Ça restera le grand moment de cette année 2020-2021. C'est un grand moment de plaisir.
Et ensuite,
c'est filmé en plus, j'avais oublié.
Et ensuite, on va le placer effectivement dans le petit tube en plastique qui contient un réactif.
On dirait un peu Jérôme Bonaldi, mais version santé, si je puis me permettre. Et là, je secoue.
Ouais, non, vous touillez un petit peu.
Comme la machine à café.
Exactement.
Victor, là, une question. Ouais. L'utilité de ces tests, à quoi ça sert?
Alors, en fait, c'est vraiment un moyen supplémentaire pour améliorer le suivi de l'épidémie. Toutes les personnes peuvent le faire à partir de 15 ans, soit dans le cadre d'un dépistage ciblé, soit effectivement à plus grande échelle, dans les écoles, où ça pourra être rapidement déployé à partir de la rentrée, par exemple.
Merci beaucoup, Victor Delangle. Je vous laisse faire en attendant avec Mathieu. On vous retrouve dans le journal de 8h. Et pour connaître le résultat.
Je serai dans le coin. Je donne mon test à Victor. C'est lui qui fera l'expert pour ce test-là.
Merci.
L'autre nouveauté du jour, désormais, toutes les personnes de plus de 55 ans peuvent se faire vacciner sans condition. On va partir au Royaume-Uni où, après 4 mois de fermeture, les pubs attendent le retour de leurs clients aujourd'hui. Et ces derniers ont hâte de trinquer malgré la semaine de deuil national décrété après le décès du prince Philippe vendredi. Par décence, le Premier ministre britannique Boris Johnson n'ira finalement pas prendre une pinte devant les caméras comme il l'avait promis. Mais ce n'est pas le cas de ces londoniens très impatients qu'a rencontré Théo Manval.
Les tables et les chaises sont prêtes à être dressées sur le trottoir.
Excited.
Et Jim n'a qu'une hâte, retrouver les clients de son pub, même dans ce contexte particulier.
Oui, les funérailles de samedi, ça change l'ambiance. C'est plus mélancolique, mais on a hâte quand même. On est fermé depuis Noël, on a encore les décorations au mur. Alors même si on ne peut servir que sur le trottoir, c'est déjà pas mal.
Le service ne se fera en effet que dehors et uniquement sur des tables pour limiter chaque groupe à 6 personnes. Le restaurant voisin croule déjà sous les réservations. Jim aussi.
On a déjà 60 personnes. On essaie de laisser de la place pour ceux qui voudraient venir à l'improviste, mais dans la seconde où vous rouvrez les pubs, ils sont remplis. Aujourd'hui, ça sera la folie. Des réservations dès midi.
C'est notamment le cas pour Eric et Kesha.
J'ai aussi réservé tous les week-ends.
Ça va être un soulagement national.
C'est un peu dommage que ça tombe au même moment, mais même en deuil national, on peut se dire que Philippe a eu une belle vie et en boire une à sa mémoire.
Mais après 4 mois de fermeture, attention, prévient Jim, les Londoniens ont perdu l'habitude et risquent de moins tenir l'alcool. Londres, Théo Manval, Europe 1.
Et puis au Brésil, ce constat alarmant, désormais la majorité des malades du Covid en soins intensifs sont âgés de moins de 40 ans.
C'est sa première prise de parole depuis l'affaire du restaurant clandestin, le chef Christophe Leroy qui fait son mea culpa.
Et chez nos confrères de BFM Télé, Christophe Leroy reconnaît une maladresse qui n'aurait jamais dû avoir lieu au vu du contexte sanitaire.
Aujourd'hui, je vous dis que c'était une erreur de le faire et j'assume. Et si je suis condamné pour cela, je ferai face. C'est une erreur, il n'y a eu rien de grave, j'aurais pas dû le faire. Il ne s'est rien passé au Palais Vivienne. Mais on en fait. Je peux comprendre le ressenti, le palais, le caviar, le champagne, le cuisinier du show business. Et on en fait. Je peux comprendre. C'est très mal perçu. C'est maladroit. Le président a parlé la veille. Il y a eu un coup de... La preuve, d'ailleurs, on a eu des annulations la veille. Beaucoup de gens qui étaient prévus ne sont pas venus. Donc oui, aurait pas fallu le faire. Aurait fallu annuler cette conférence.
Et puis, il y a 60 ans, jour pour la première fois, l'homme voyageait dans l'espace. Cet homme, c'était Youri Gagarin, 12 avril 1961. Il a 27 ans. Il s'envole de la base de Baïkonour au Kazakhstan pour ce vol historique lors d'Autriche.
Oui, la base spatiale de Baïkonour est alors une ville secrète, construite à une vitesse record par l'URSS qui voulait devancer les États-Unis dans la conquête spatiale. Gagarin grimpe à l'intérieur de la fusée, dans sa combinaison orange. 2 minutes après le décollage, il annonce « Je vois la Terre, c'est magnifique ». Il passera 108 minutes dans l'espace pour un vol autour de la Terre. Et depuis, tous les gestes de Gagarin sont reproduits comme un rituel par les astronautes qui s'apprêtent à décoller depuis la base russe. Ils regardent le même film soviétique que Gagarin la veille du départ. Ils restent assis sur leur lit pendant 1 minute parce que, selon la tradition russe, rester debout porte malheur aux voyageurs. Et sur la route qui mène à la fusée, le bus s'arrête à l'endroit précis où Gagarin est descendu pour uriner. Rituel respecté par tous les astronautes aujourd'hui, sans exception, comme l'a fait Thomas Pesquet lors de sa première mission dans l'espace en 2016.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Et puis juste un mot de football pour terminer. Lyon reste dans la course au titre de champion de France. Victoire de l'OL, 3-0 contre Angers hier soir.
Merci beaucoup Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. 7h36 à 8h15, l'interview politique de la matinale. C'est Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Dans quelques minutes, interview géopolitique. On va interroger la notion de frontière, le retour en grâce des frontières, les nouvelles frontières du 21e siècle, avec Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, le tête-à-tête Europe Matin. Mais tout de suite, Bertrand Chameroy est de retour. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, fini la belle vie pour vous. Je suis de retour et mes chansons pourries avec moi.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1. Il est là, Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, je suis content de vous retrouver, tellement heureux d'enfin remonter dans le grand train de l'information. Non vraiment, il était temps que je revienne, c'était plus vivable. Enfin peut-être pas pour vous Mathieu, ça a dû vous reposer les oreilles une semaine sans chanson, mais pour moi c'était un calvaire. Qu'est-ce qui s'est passé sérieusement? Ça faisait des mois qu'on était en boucle matin, midi, soir sur le Covid et pile la semaine où je m'absente. Des actus dans tous les sens. Les dîners clandestins, Fabien Lecoeur qui se retrouve dans la sauce, la mort du prince Philippe, Michel Drucker de retour à l'antenne, Fabien Roussel candidat en 2022. Comment ça qui? Enfin, Fabien Roussel, le premier secrétaire du Parti communiste. Fabien Roussel, voilà. Bon, excepté la dernière info, il s'est passé plus de choses en une semaine qu'en 3 mois dans l'actu. Quelle frustration, toutes ces infos qui sortaient. Moi, je pouvais rien en faire. Ça m'a procuré la même sensation que dans les rêves. Vous savez, dans les rêves, quand vous devez courir, vous poursuivez un type qui vous a volé un truc, mais vous n'y arrivez pas. Vous faites des gestes au ralenti. Bah, cette semaine, l'actu, c'était ce voleur. Et moi, j'étais le débile qui courait. Attendez-moi. Voilà. De toute façon, c'est l'histoire de ma vie. Hein. L'été, quand on regarde les étoiles filantes, j'en vois jamais. Et pile quand je pars me coucher après des heures à patienter, ça fuse dans tous les sens. Pareil pour les soirées, du temps où ça existait encore. C'est toujours au moment où je rentrais que les choses les plus folles se passaient.
Ah oui, ça c'est un classique.
Ben oui. Et à propos de soirée, c'est quand même pas de chance, quoi. La seule semaine où je suis pas avec vous, il y a l'affaire des dîners clandestins au Palais Vivienne, hein, qui sort. Il y avait tout dans cette histoire. Pierre-Jean Chalençon, le type d'affaires conclues qui ressemble à Couscous du film Podium. Le mauvais sosie de Paul Naref accusé d'organiser des dîners clandestins à 220 euros auxquels auraient participé toujours, selon Couscous, des membres du gouvernement. Quand j'ai reçu l'alerte info, je bouillonnais, quoi. Cette histoire, c'était une mine d'or, niveau van, avec des rebondissements toutes les 10 minutes. C'était un multiplex de l'improbable. Et pour sa défense, le chef a expliqué, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, que ce, juridiquement, ce n'est pas un restaurant. Gastronomiquement non plus. Hein. Niveau plat, on est à mi-chemin entre le top 5 des ratés de Marmiton et des restes de la fête des voisins. C'est vrai. Et histoire de m'achever, la cerise sur le gâteau, le petit topping. Alain Duhamel et Brice Hortefeux soupçonnés d'avoir déjeuné ensemble dans un resto clandestin tenu par le même chef, Christophe Leroy, et je pouvais rien en faire. Alors Alain Duhamel estime avoir eu le sentiment, je le cite, d'être piégé. Bah tu m'étonnes, 220 boules pour des gnocchis à poêler et un kiri, on est au-delà du piège. Ouais. Non mais franchement quoi, Brice Hortefeux, le nom de Brice Hortefeux est revenu dans l'actu la semaine où j'étais pas en studio, sérieux, ça m'a rappelé tellement de souvenirs ce nom. Les années 2010, le ministère de l'immigration, l'UMP, David Douillet ministre, et puis surtout, le lip-dub de l'UMP. Tous ceux qui veulent changer le monde.
C'est gratuit ça.
Donc si vous demandiez comment s'est passée ma semaine, en gros c'était ça. Frustré de ne pas pouvoir exploiter les infos qui sortaient, avec en prime cette chanson dans la tête. Donc la prochaine fois, je désactiverai les alertes infos de mon téléphone.
Oui, c'est conseillé. Un jour vous me chanterez ça, Bertrand Chameroy.
Avec plaisir.
La Touche Âme et le retour de Bertrand Chameroy à 10h également avec Philippe Vandel et toute son équipe dans Culture Média. Merci Bertrand, 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Après une décennie qui rebat les cartes géopolitiques, crise économique, migratoire, lutte contre le terrorisme, puis lutte contre la pandémie. Les frontières mises à rude épreuve, la libre circulation contestée comme jamais, les protectionnismes aussi qui émergent. Nous questionnons la notion de frontière avec mon invité. Il est chercheur de terrain actuellement dans le Caucase, au Karabakh, après le conflit de territoire entre l'Azerbaïdjan et la République autoproclamée du Haut-Karabakh soutenue par l'Arménie. Le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, Bruno Tertrais, qui réédite son Atlas des frontières aux éditions des Arènes.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour Bruno Tertrais.
Bonjour.
Vous êtes actuellement dans le Caucase, je le disais, le Karabakh plus précisément, chercheur de terrain. Alors commençons par là. On est face à une illustration très concrète là, de ce dont nous parlons ce matin, la notion de frontière.
Bah, c'est aussi une illustration du fait que, tout simplement, les frontières sont assez résilientes, parce que certains ont dit que les frontières avaient changé à l'occasion du conflit qui a opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan au mois de novembre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt un retour aux frontières héritées de l'ex-Union soviétique. Et les frontières internationales, finalement, elles sont assez résilientes au sens où on les change assez rarement. Elles sont plutôt, elles ne bougent pas beaucoup, même si, bien sûr, certains États, certaines puissances aimeraient bien que ces frontières changent, mais ces frontières, moi je les appelle plutôt des frontières résilientes.
Et on est aux portes de l'Europe et finalement ces enjeux n'ont pas tant changé que ça.
Ah, il y a eu quand même un événement tout à fait fondamental en 2014, c'est-à-dire que pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un État a voulu changer les frontières internationalement reconnues par la force. Et cet État, c'est la Russie qui a annexé une partie du territoire ukrainien, alors même que la Russie reconnaissait la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Et donc ça, c'était un événement tout à fait majeur. La condamnation très large de la communauté internationale vis-à-vis de l'annexion de la Crimée, donc ce changement de frontière par la force, qui est quelque chose que même l'Union soviétique ne faisait pas, je crois que ça restera plutôt une exception qu'une nouvelle norme. Et encore une fois, là où je me trouve, c'est-à-dire dans le Caucase, on voit plutôt un retour aux frontières acceptées, plutôt que de véritables changement de frontières internationales.
Il y a cet atlas des frontières que vous rééditez, Bruno Tertrais, il y a ce que vous dites et la zone du Caucase où vous vous trouvez. Ces frontières, elles paraissaient dépassées à l'heure de la mondialisation. Aujourd'hui, est-ce qu'elles sont encore une grille de lecture pour la planète, une grille de lecture de la politique internationale ?
les frontières ont gagné quelque part. C'est-à-dire que les frontières connaissent de plus en plus de succès, si j'ose dire, puisqu'elles ont été relégitimées, à la fois, bien sûr, depuis 1990, avec toutes ces nouvelles indépendances, tous ces nouveaux États, mais aussi parce que les chocs qu'elles ont subis, le terrorisme, les migrations, et puis plus récemment, la pandémie, bien sûr, elles ont suscité un besoin de frontières, j'allais dire même un désir de frontières. Vous savez, lorsque Donald Trump disait « les gens veulent voir des frontières », c'est une citation de Donald Trump, il disait quelque chose de vrai. Quand on n'a pas de frontières, on n'a pas d'État. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de pays au monde, que ce soit en Europe ou ailleurs, partagent.
Mais vous mentionniez la pandémie qui a rendu cette question très concrète. De retrouver une frontière entre la France et l'Allemagne, pour plusieurs générations, c'était parfaitement inconcevable il y a à peine plus d'un an.
Oui, c'est vrai, on a pris la liberté de circulation entre la France et l'Allemagne, et plus largement entre les pays de l'espace Schengen, on l'a tenue pour acquise. Je pense que c'est provisoire, je pense que c'est contingent, mais en tout cas, nous ne pouvons plus considérer que c'est quelque chose, cette liberté de circulation, qui est définitivement acquise. Mmh. On avait cru, au début des années 1990, qu'on irait inéluctablement vers un monde avec des frontières de plus en plus effacées, des frontières de plus en plus poreuses, des frontières de plus en plus faciles à passer. Eh bien, ça n'est pas le cas, la pandémie nous l'a rappelé.
On sort d'une décennie de crise économique, de guerre contre le terrorisme, de crise migratoire et maintenant donc de pandémie mondiale. À vos yeux, Bruno Tertrais, est-ce que l'espace Schengen va survivre ?
De même qu'avec l'euro, on a fait cet outil formidable, mais sans convergence des politiques budgétaires et économiques, avec l'espace Schengen, on a fait ce projet formidable de la liberté de circulation sans trop s'occuper du contrôle des frontières extérieure de l'Europe. Or, on voit aujourd'hui que la liberté de circulation en Europe, ça n'est tenable que si on garantit aux citoyens de l'espace Schengen que la frontière extérieure est bien contrôlée.
Alors, si on parle beaucoup de frontières physiques ce matin, aujourd'hui, c'est aussi une question économique. Quand on parle de protectionnisme ou même d'impôt mondial sur les sociétés, c'est le même débat, non ?
Il y a eu deux mouvements différents depuis 2008-2009. Il y a eu d'abord l'impact de la crise économique et le retour d'un certain protectionnisme. Les barrières douanières se sont élevées de nouveau, alors qu'on était plutôt, depuis le début des années 90, dans une sorte de libéralisme qui correspondait à une ouverture des frontières. Mais je pense qu'après la pandémie, on aura plutôt un tel désir d'ouverture et de circulation de nouveau que ces phénomènes seront de moins d'importance.
Alors, on a mentionné Trump, on aurait pu parler de l'Inde aussi ou d'autres. Parfois, la revendication de ces frontières est associée au populisme. Nous parlons du terrorisme, par exemple, mais pas seulement. Est-ce que ces frontières, à vos yeux, sont une solution ?
Il faut pas croire que la lutte contre le terrorisme passe prioritairement par la fermeture des frontières. Ça serait une illusion. La grande majorité des actes de terrorisme que nous avons connus en France ces dernières années ont été le fait de personnes qui soit sont entrées légalement, soit tout simplement étaient des Français. C'est pas une question d'ouverture ou de fermeture de frontières, c'est une question de bonne coopération entre les États membres. Ça me semble beaucoup plus important que l'idée de fermer ou d'ouvrir les frontières. Ça n'est pas vraiment ça le sujet quand on cherche à lutter contre le terrorisme.
Bruno Tertrais, j'aimerais qu'on parle ce matin de la mer, parce que vous dites que la question des frontières maritimes va devenir fondamentale.
Nous sommes aujourd'hui, comme disait Paul Valéry, le temps du monde fini commence. Nous sommes dans un monde dans lequel les frontières terrestres sont quasiment toutes tracées. Il n'y a plus de zone blanche sur la planète, ou quasiment plus aucune. Je crois que la mer, ça va être véritablement la nouvelle frontière du 21e siècle, au sens du Far West, c'est-à-dire que chaque État qui dispose d'une façade maritime, et encore plus les États désireux d'étendre de manière un peu impérialiste leur influence sur la mer, vont tenter non seulement de tracer leurs propres frontières, mais de disputer aux autres leur souveraineté territoriale. Et la France est très bien placée dans ce grand jeu, et que si ces demandes d'extension sur les droits qu'elle demande à l'ONU sur son domaine maritime sont acceptées, eh bien la France aura le premier domaine maritime mondial, ce qui sera très important pour les enjeux de ressources et de souveraineté du 21e siècle.
Pour terminer, ce sera ma dernière question, Bruno Tertrais, je reviens au terrain du Caucase, où vous vous trouvez. Le journal Le Monde racontait il y a un mois l'histoire de Chournouk. C'est un village coupé en deux, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'histoire de Stepan, agriculteur arménien, 72 ans, dont la maison est coupée en deux, expropriée d'une partie. Il lui reste sa chambre et son salon, qui sont restés du côté arménien. C'est ça une frontière ?
Vous savez, des situations comme celle-là, il y en a d'extrêmement pacifiques et d'extrêmement conflictuelles. Extrêmement pacifiques, par exemple, entre la Belgique et les Pays-Bas. Vous avez aussi des propriétés et littéralement des maisons qui sont coupées en deux. Et pourtant, ça se passe très bien parce que les États, parce que les sociétés s'entendent bien. Et les frontières, c'est toujours un symptôme. Il n'y a pas de conflit frontalier. La frontière est plutôt le symptôme plutôt que la maladie. Elle reflète toutes ces tensions et tout ce qu'il y a de meilleur ou de pire dans la coexistence entre deux États et entre deux sociétés.
En ligne, depuis le Karabakh, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, je rappelle cette nouvelle édition de l'Atlas des Frontières, Murs, Migration, Conflits, c'est aux éditions Les Arènes. Merci Bruno Tertrais.
Merci à vous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h50 dans quelques toutes petites secondes, l'édito politique de Nicolas Bétou avant de retrouver Nicolas Canteloup avant 8h.
Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1.
La Caisse d'épargne vous présente l'édito politique de Nicolas Bétou. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
L'édito politique, et c'est une semaine importante pour l'avenir de la gauche en France.
Oui, avec plusieurs rendez-vous cruciaux pour préparer l'élection présidentielle de l'an prochain. Objectif de ces grandes manœuvres, voir si les quatre principales forces de gauche peuvent s'unir, ce qui serait pour elles la seule chance de perturber le duel annoncé au second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Alors les quatre principaux partis, c'est-à-dire
Le Parti Socialiste, la France Insoumise, le Parti Communiste et les Verts d'Europe Écologie. C'est d'ailleurs Yannick Jadot qui est le plus actif pour organiser cette union de la gauche. Il se démène et il a réussi un petit tour de force, mettre les principaux dirigeants de ces quatre partis autour d'une table pour discuter avenir commun. Ce sera samedi prochain.
Avec des chances d'obtenir un résultat ou le début d'un accord ?
Ben non, à peu près aucune chance. Cette réunion sera un grand moment de théâtre avec jeu de rôle et arrière-pensée. Du côté des communistes, on a déjà un candidat. Il a en effet été désigné hier. Ce sera Fabien Roussel, le patron du parti. Lui n'a pas d'état d'âme, en a au PS, en l'occurrence derrière un écolo. Ce qui, naturellement, n'est pas du tout du goût d'Anne Hidalgo, qui, malgré des sondages de misère, fait tout au contraire pour apparaître comme la candidate naturelle. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il sait que cette échéance de 2022 sera sa dernière grande bataille politique. Il aura 71 ans et rien ne l'empêchera d'être candidat. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup de considération pour ses partenaires.
Et les Verts ?
Ah ben comme toujours avec eux, c'est compliqué. Yannick Jadot brûle de réaliser l'union derrière lui, bien sûr, au prétexte que les Français sont tous devenus écolos. Bref, ce serait son moment. Sauf qu'il doit convaincre ses partenaires, mais aussi son propre parti, ELV, qui lance aujourd'hui sa plateforme, et convaincre en plus le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui, malgré un score ridicule de 2% dans les sondages, réclame une primaire et prétend incarner le vert le plus vrai, un vert qui tire nettement vers le rouge gauche-gauche.
Alors effectivement, tout ça, ça ne donne pas une grande impression d'union.
Non, ce qui les conduit tous inexorablement à l'échec. Les sondages sont d'ailleurs cruels. Jamais la gauche en France n'a été aussi faible, autour de 28% des intentions de vote. Jamais elle n'a autant paru dépourvue de leaders naturels capables de s'imposer ou d'un parti dominant clairement les autres, ce qui lui donnerait une légitimité pour être le rassembleur. Et cela, au moment où les valeurs au top des préoccupations des Français sont la solidarité et l'écologie. Et bien que la gauche soit incapable de transformer ses aspirations en vote est un des grands mystères du moment.
Merci Nicolas Bétou, votre édito politique tous les matins à 7h50. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion.
C'était l'édito politique avec la Caisse d'épargne mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Et tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Marlène Schiappa, la ministre déléguée en charge de la citoyenneté. C'est le Premier ministre Jean Castex qui est venu lui dire un petit mot.
Oui, tout à fait. Bonjour, monsieur Béliard. Tout d'abord, un petit conseil auprès de monsieur Bétou, qu'il se repose un peu plus, parce que ça savonnait ce matin.
Oui,
derrière, Meyer, en l'occurrence, ou là-bas, un million de gens qui l'ont entendu. Ça flottait. Bon, allez. Non. Ces histoires, revenons à nos moutons, ces histoires de ministres, c'est, vous l'avez compris, un terrain miné. Le ministre aux cheveux gris qui font des dîners mondains. Ce pourrait être pas Monsieur Bétou, il a eu cheveux gris, Monsieur Bétou.
Il n'est pas ministre.
Non, déjà, ça ne peut pas être moi. Ça ne peut pas être moi parce que moi, j'ai les cheveux chauves. Voilà. Et je ne suis pas vraiment l'incarnation, vous en conviendrez, du parisianisme. Hein, je ne suis pas une icône des dîners parisiens. Hein, je suis plus, comment vous dire, Paul Prébois que Jean-Claude Brialy. Voilà. Alors, je sais que Marlène nous écoute dans sa voiture de Vonction. Marlène, si on te parle des vaccins, tu réponds sur les vaccins. Voilà, tu dis, il y en a partout, il y en a des millions qui arrivent, il y en a même trop, on ne sait plus quoi en faire. Tu fais une de ces phrases qui ne s'arrêtent jamais, dont tu as le secret. Voilà. Si Sonia Mabrouk te questionne sur le régional, tu réponds sur le régional. Si elle te questionne sur les dîners clandestins, tu réponds sur le régional ou les vaccins, comme tu veux.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, Marlène Schiappa à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Et Nicolas, on vous retrouve à 8h45 tout à l'heure pour la revue de presque. Très bon réveil à tous. 7h59 sur Europe 1, ouais. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Alors chers amis, si vous dessinez d'un coup de crayon les frontières de l'Est de la France, vous partez du Wissembourg, partez en Alsace, au nord de l'Alsace et sa maison du sel, vous descendez jusqu'à Menton et son jardin de la Madone, vous trouverez là la trace de la pluie de ce matin. Allez se situer exactement tout droit entre le nord et le sud et calé sur les régions de l'Est, ces pluies vont s'en aller, on va dire qu'elles vont disparaître dans le courant de la matinée et en début d'après-midi. Et puis, en fin de journée, il ne restera plus que quelques averses sur le nord Picardie, Champagne, Ardennes, Normandie, Lorraine, région parisienne. En fin de journée, quelques ondées, pas plus. Les températures vont grimper entre 8 et 15 degrés, alors qu'en ce moment, elles se situent entre moins 5 et plus 5.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.